Mary James, un portrait de femme. Chapitre 17. Elle ne priait pas. Elle tremblait, tremblait de tout son corps. Cela lui arrivait parfois, trop facilement même, et elle vibrait maintenant comme une harpe que l'on vient de frapper. Elle n'eût demandé qu'à la remettre sous sa housse, à l'entourer d'une gaine de toile brune, mais elle voulait aussi résister à cette impulsion, et l'attitude de dévotion qu'elle conserva quelques minutes sembla l'aider à reprendre son calme. Elle se réjouissait du fond du cœur que Caspar Goodwood fût parti. Le fait d'en avoir ainsi fini avec lui lui faisait l'effet du règlement par traite d'une créance trop longtemps en suspens. Cette impression d'heureux soulagement lui fit incliner encore un peu la tête. Elle la sentait dans son cœur comme une émotion profonde, mais un peu scandaleuse aussi, une émotion profane et déplacée. Elle ne se releva pas de 10 minutes, et même quand elle repassa dans le salon, son tremblement n'était pas tout à fait apaisé. C'est qu'il avait deux causes. On pouvait l'attribuer en partie à sa longue discussion avec Mr. Goodwood, mais par ailleurs, on peut craindre qu'il fût simplement le fait de la joie que causait à Isabelle la constatation de sa puissance. Elle s'assit à sa place primitive et reprit son livre, sans faire le geste d'en ouvrir les pages. Elle restait adossée, avec ce murmure bas et prolongé qui lui servait de réponse à des incidents dont le côté heureux ne se faisait pas immédiatement sentir, et se laissait aller à la satisfaction d'avoir, en une semaine, évincé 2 soupirants chaleureux. Son amour de la liberté qu'elle avait si hardiment proclamé devant Caspar Goodwood restait pour le moment presque exclusivement théorique, et elle n'avait guère été à même de le mettre sérieusement à l'épreuve. Mais elle n'en gardait pas moins le sentiment d'avoir fait quelque chose. Elle avait savouré la joie de la victoire, sinon du combat, et accompli le geste qui concordait le mieux avec ses projets. Sur ce fond lumineux, l'image de Mr. Goodwood et de son retour attristé par les rues poussiéreuses se détachait pourtant avec un relief si plein de reproches qu'en entendant s'ouvrir la porte du salon, elle se leva avec anxiété. Elle craignait que le jeune homme ne revînt à la charge et se rassura en voyant Henriette Stackpole. Miss Stackpole s'aperçut dès l'abord que notre jeune héroïne venait de subir une émotion, découverte qui ne réclamait d'ailleurs qu'une perspicacité médiocre. Elle alla droit à notre amie qui l'accueillit sans un mot. La joie que causait à Isabelle le départ de Caspar Goodwood pour l'Amérique devait supposer du même coup un certain contentement de sa venue, mais ne lui faisait pas oublier qu'Henriette n'avait aucun droit de lui tendre un piège. « Il est venu, ma chérie ?» demanda anxieusement Miss Stackpole. Isabelle se détourna et fit attendre sa réponse. « Vous avez très mal agi, » déclara-t-elle enfin. « J'ai agi pour le mieux. Je souhaite seulement que vous en ayez fait autant. » « Vous n'avez pas à en juger, je ne puis pas me fier à vous. » Cette déclaration était peu flatteuse, mais Henriette manquait beaucoup trop d'égoïsme pour s'y arrêter. Elle ne s'inquiéta que de ce qu'on pouvait en conclure pour son amie. « Isabelle Archer, » lança-t-elle avec une brusquerie et une solennité égales, « si vous épousez un de ces individus, je ne vous parlerai plus jamais de ma vie. » « Vous feriez bien d'attendre qu'on me le demande pour lancer une menace si terrible, » riposta Isabelle. N'ayant jamais soufflé mot à Miss Stackpole de la proposition de Lord Warburton, elle ne se sentait nullement tentée de se justifier en avouant qu'elle s'était refusée à ce gentilhomme. « Oh, cela vous arrive bien vite, du moment que vous avez débarqué sur le continent. Annie Klimber a été demandée 3 fois en mariage pendant son voyage d'Italie. La pauvre petite Annie qui a si peu de beauté. Si Annie ne s'est pas laissée prendre, pourquoi en serait-il autrement de moi ?» Je ne crois pas qu'on ait autant insisté près d'Annie qu'on le fera près de vous. Voilà une conviction flatteuse, fit Isabelle, sans inquiétude. Je ne vous flatte pas, Isabelle, je vous dis la vérité, s'écria son amie. J'espère que vous n'allez pas me raconter que vous n'avez pas donné quelque espoir à Mr. Goodwood. Je ne vois pas pourquoi je vous dirai rien, puisque, comme je viens de vous le déclarer, je ne puis plus me fier à vous. Mais puisque vous vous intéressez tant à Mr. Goodwood, je ne vous cacherai pas qu'il va repartir sans retard pour l'Amérique. « Alors vous l'avez renvoyé !» cria du haut de sa voix Miss Stackpole. « Je lui ai demandé de me laisser en paix, et je vous prie d'en faire autant, Henriette !» Miss Stackpole roula pendant un moment des yeux brillants d'émoi, puis se dirigea vers la glace de la cheminée et retira son chapeau. « J'espère que vous avez fait un dîner agréable, » reprit Isabelle. Mais sa compagne n'entendait pas se laisser distraire par des propos frivoles. « Savez-vous où vous allez, Isabelle Archer ? » demanda-t-elle solennellement. « Pour l'instant, je vais me coucher, » répondit Isabelle avec une frivolité volontaire. « Savez-vous où vous vous laissez entraîner ? » insista Henriette, en maniant avec précaution son chapeau. « Je n'en ai pas la moindre idée et me réjouis fort de cette ignorance. Une voiture à 4 chevaux qui file vivement par une nuit sombre sur des routes invisibles, voilà ma conception du bonheur. Ce n'est certainement pas Mr. Goodwood qui vous a appris à tenir un langage d'héroïne de mauvais roman, s'indigna Miss Stackpole. Vous allez tout droit à une grande bêtise. » Bien qu'irrité par l'insistance de son amie, Isabelle s'efforça de chercher quelle part de vérité comportait pareille affirmation. Mais elle ne trouva rien qui pût l'empêcher de dire « Il faut que vous m'aimiez beaucoup, Henriette, pour vous résigner à être aussi indiscrète. »« Je vous aime profondément, Isabelle, » répondit avec émotion Miss Stackpole. « Eh bien, si vous m'aimez si profondément, laissez-moi profondément tranquille. C'est ce que j'ai demandé à Mr. Goodwood et ce que je vous demande à vous, maintenant. »« Prenez garde qu'on ne vous laisse trop tranquille. » « C'est exactement ce que m'a dit Mr. Goodwood. J'ai répondu que j'encourrais le risque. » « Vous provoquez le danger. Vous me faites frémir !» cria Henriette. « Quand Mr. Goodwood doit-il repartir pour l'Amérique ?»« Je n'en sais rien. Il ne me l'a pas dit. »« Peut-être ne le lui avez-vous pas demandé ?» dit Henriette avec un accent de vertueuse ironie. « Je lui ai donné trop peu de satisfaction pour me croire le droit de lui poser des questions. » Cette réponse parut un moment coupée chez Miss Stackpole toute velléité de riposte. Mais elle n'en reprit pas moins après un moment de stupeur. « Eh bien, Isabelle, si je ne vous connaissais pas, je croirais que vous n'avez pas de cœur. »« Prenez garde, sourit Isabelle, vous me gâtez. »« J'ai peur de l'avoir déjà fait. J'espère au moins qu'il va faire le voyage avec Annie Klimber. » Le lendemain matin, Miss Stackpole avertit son amie qu'elle avait décidé de ne pas retourner à Garden Court, malgré l'aimable insistance du vieux Mr. Touchett, mais d'attendre à Londres l'invitation de Lady Pensil, dont Mr. Bentling s'était porté garant. Elle rapporta tout au long son entretien avec le loquace ami de Ralph Touchett et dit sa conviction de se trouver enfin sur une piste qui pouvait le conduire à bon port. Dès l'arrivée de la lettre de Lady Pensil, que Mr. Bentling avait virtuellement promise, elle se mettrait en route pour le comté de Bedford, et si Isabelle s'intéressait le moins du monde à ses impressions, elle les trouverait certainement tout au long dans l'Interviewer. Cette fois-ci, Henriette allait enfin apprendre quelque chose sur la vie profonde. « Savez-vous où vous vous laissez entraîner, Henriette Stackpole ?» demanda Isabelle en imitant le ton qu'avait pris la veille son amie. « À une grande situation, à celle de la reine du journalisme américain. Si l'on ne reproduit pas mon article dans tous les journaux de l'Ouest, je veux avaler mon essuie-plume. » Elle avait convenu avec son amie Miss Annie Klimber, la jeune fille si chargée d'offres de mariage, de faire avec elle des emplettes qui devaient représenter l'adieu de Miss Klimber à un hémisphère où elle avait, du moins, été appréciée, et elle se rendit bientôt à Jermyn Street pour y chercher la voyageuse. Peu après son départ, on annonça Ralph Touchett, dont le visage trahissait le souci et qui ne tarda pas à mettre sa cousine au courant de son inquiétude. Il venait de recevoir un télégramme de Mrs. Touchett l'informant que son père subissait une violente attaque de son ancienne affection, qu'elle était fort tourmentée et le priait de revenir sans délai à Garden Court. En ces circonstances du moins, on ne pouvait songer à critiquer l'amour de Mrs. Touchett pour la ligne électrique. « J'ai jugé préférable de courir tout de suite chez Sir Matthew Hope, le grand médecin, » expliqua Ralph. « Et par bonne chance, il se trouve à Londres. Je dois le voir à 12h30 et je m'assurerai de sa venue à Garden Court. Il y consentira sans doute d'autant plus facilement qu'il a déjà examiné plusieurs fois mon père, tant à Londres qu'à la campagne. » Il y a un express à 2h45, je le prendrai, et selon votre préférence, vous rentrerez avec moi, ou vous resterez quelques jours à Londres. Je rentrerai certainement avec vous, déclara Isabelle. Je ne crois pas pouvoir être d'aucune utilité à mon oncle, mais s'il est souffrant, je serai heureuse d'être près de lui. Je crois que vous l'aimez bien, dit Ralph, avec une expression de timide douceur. Vous savez mieux l'apprécier qu'on ne le fait d'ordinaire. Il est d'une patte trop fine pour la plupart des gens. Je l'adore sincèrement, affirma Isabelle. « J'en suis bien heureux. Après son fils, vous n'avez pas de plus grand admirateur. » Elle accueillit cette assurance avec plaisir, non sans pousser en son fort intérieur un petit soupir de soulagement à l'idée que Mr. Touchett était du moins un de ses admirateurs qui ne risquait pas de lui demander sa main. Mais sans exprimer cette pensée, elle informa Ralph qu'elle avait d'autres raisons de ne pas prolonger son séjour à Londres. Elle avait assez de la ville, et Henriette la quittait aussi pour faire un séjour dans le comté de Bedford. De Bedford, chez Lady Pensil, Mr. Bentling a répondu à de son invitation. Malgré son inquiétude, Ralph ne put réprimer un éclat de rire, mais il retrouva vite son sérieux. Bentling est un homme intrépide, et si l'invitation se perdait en route? Je croyais la poste anglaise impeccable. Quelquefois le bon Homer sommeille, dit Ralph. Ce n'est certainement pas du moins le cas du brave Bantling, et quoi qu'il arrive, il saura prendre soin d'Henriette. Ralph s'en fut à son rendez-vous avec Sir Matthew Hope, tandis qu'Isabelle faisait ses préparatifs de départ. Le sort de son oncle la touchait, et debout devant la malle ouverte qu'elle cherchait vaguement à remplir, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est peut-être pour cette raison qu'elle n'était pas prête, lorsque Ralph vint la chercher à 2 heures. Il trouva Miss Stackpole dans le salon, où elle venait d'achever son repas, et la journaliste lui exprima ses condoléances sur l'état de son père. « C'est un beau vieillard, proclama-t-elle, fidèle jusqu'au dernier jour. Si sa fin doit être proche, excusez-moi de le dire, mais j'ai souvent envisagé cette éventualité, je regretterais de ne pas être à Garden Court. Vous vous amuserez bien mieux dans le Bedfordshire. Je n'aurais pas le cœur à m'amuser en un tel moment, dit Henriette avec beaucoup de tact, ce qui ne l'empêcha pas d'ajouter aussitôt. J'aimerais pourtant commémorer la scène d'adieu. Mon père peut vivre longtemps encore, fit simplement Ralph. Puis, revenant à des propos plus enjoués, il interrogea Miss Stackpole sur ses projets. Tenant compte du chagrin de Ralph, elle le traitait avec une certaine indulgence et reconnut qu'elle lui était fort obligée de lui avoir fait connaître Mr. Bantling. « Il m'a précisément donné tous les détails que je voulais apprendre, déclara-t-elle, concernant la société et la famille royale. Il ne me paraît pas que ce qu'il raconte de la famille royale soit bien à son éloge, mais il prétend que c'est une façon à moi de voir les choses. En tout cas, tout ce que je demande, ce sont des faits. Je m'arrangerai bien à les utiliser quand je les tiendrai. » Et elle ajouta que Mr. Bantling avait eu l'obligeance de promettre de l'accompagner cet après-midi. « Pour aller où ?» hasarda Ralph. « Au palais de Buckingham. Il va me le faire visiter de fond en comble pour me donner une idée de la vie de ces gens-là. » « Je vois que nous vous laissons en bonne main, » conclut Ralph. « La première chose que nous apprendrons, c'est que l'on vient de vous inviter au château de Windsor. » « Si l'on m'en prie, j'irai certainement. Une fois parti, je n'ai pas peur. Malgré tout, » ajouta Henriette après une brève hésitation, « je ne suis pas contente. Je ne suis pas tranquille sur le compte d'Isabelle. » « Quelle est sa dernière frasque ? Oh, je vous l'ai déjà dite, et je ne vois pas d'inconvénient à aller jusqu'au bout. J'achève toujours un sujet que j'ai entrepris. Mr. Goodwood est venu la voir hier soir. » Ralph ouvrit de grands yeux et rougit même légèrement, ce qui était chez lui le signe d'une vive émotion. Il se souvenait qu'en le quittant à la porte de Winchester Square, Isabelle avait nié que son refus de se laisser accompagner fût dicté par l'attente d'une visite à son hôtel. C'était pour lui une pire nouvelle que d'avoir à la soupçonner de fausseté, bien qu'il reconnût par ailleurs qu'elle n'avait aucun compte à lui rendre de ses rencontres avec un soupirant. Ne tenait-on pas pour charmant, depuis les temps les plus reculés, le mystère que faisaient les jeunes filles de pareils rendez-vous ? Ralph trouva pour Miss Stackpole une réponse diplomatique. J'aurais pensé qu'étant donné les sentiments que vous m'exprimiez l'autre jour, ce fait devait vous causer un grand plaisir. Qu'il vint la voir, j'en étais enchantée, en effet. C'était un petit complot que j'avais fait aboutir. Je l'avais informé de la présence d'Isabelle à Londres, et une fois certaine de passer la soirée hors de l'hôtel, je l'ai prévenue d'un mot. J'espérais qu'il la trouverait seule, et ne vous cacherai pas que je souhaitais que vous ne fussiez pas près d'elle. Il est venu, mais il aurait bien pu s'en abstenir. Isabelle s'est montrée cruelle. Et le visage de Ralph s'éclaira à la pensée que sa cousine n'avait pas fait preuve de duplicité. Je ne sais pas au juste ce qui s'est passé entre eux. En tout cas, elle ne lui a donné aucune réponse satisfaisante et l'a renvoyée en Amérique. Pauvre Mr. Goodwood, soupira Ralph. Elle paraît n'avoir songé qu'à se débarrasser de lui. Pauvre Mr. Goodwood, répéta Ralph, avec un accent un peu machinal qui ne répondait nullement au cours nouveau de ses pensées. Vous ne dites pas ces mots avec beaucoup de conviction. Je ne crois pas que cela vous fasse de peine. Rappelez-vous, dit Ralph, que je ne connais pas cet intéressant jeune homme, que je ne l'ai jamais vu. Eh bien, moi, je le verrais et je lui conseillerais de ne pas renoncer. Si je ne croyais pas qu'Isabelle dût revenir au bon sens, conclut Miss Stackpole, j'y renoncerais moi-même. Entendez que c'est à elle que je renoncerais.